Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième session qui sera consacrée à Microsoft Dynamics CRM Online et Microsoft Azure. Donc, pour la petite histoire, madame Dubois, que voici, m'a harcelé hier après-midi en disant comme quoi il faut bien préciser qu'il y a aussi une connexion sur Microsoft Windows Azure. Et donc, j'ai tweeté, j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Christine Dubois, qui est Regional Director, ainsi que Monsieur Tanguy Touzard, qui est MVP.
Ah, c'est à moi de parler, c'est ça? Voilà. Bon, nous sommes effectivement...
Elle parle très fort.
Nous sommes très heureux de vous accueillir, Tanguy et moi, sur cette session. C'est vrai qu'il y a... une belle actualité sur Dynamics CRM, puisqu'il y a une nouvelle version qui est sortie au mois de janvier, là. Mais on a choisi, plutôt que de vraiment faire quelque chose de spécifique sur cette solution, qui est une solution métier que pas tout le monde forcément connaît, on a choisi de vous montrer quelque chose de un peu plus technique. Du coup, c'est une session qui est de niveau 200. Puisqu'on voudrait vous montrer l'intégration de CRM online et Azure. En effet, Microsoft a sorti donc une offre cloud de CRM. Et du coup, il y a des questions qui se posent, il y a des challenges qui sont à relever, et notamment comment exploiter cette version donc sur le nuage en même temps que son système d'information dans l'entreprise. Et c'est là qu'intervient donc Windows Azure, et c'est ce qu'on aimerait donc vous montrer aujourd'hui au travers de démonstrations. Voilà, donc je vous présente Tanguy, qui est le seul MVP français sur le sujet et qui a bien voulu m'accompagner sur cette session.
Merci Christine. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Tanguy Touzard. Je travaille pour la société Alcy, qui est basée donc sur Paris. Donc Alcy, c'est une société qu'on dit pure player Microsoft, c'est-à-dire qu'on va intégrer uniquement des solutions Microsoft et quasiment toutes les solutions Microsoft. En fait, on adresse toute la gamme des logiciels Microsoft, sauf Dynamics, AX et Nav, qui sont des solutions un peu plus gestion vraiment entreprise. Donc on se concentre sur les solutions plus techniques. Donc on travaille toujours en avance de phase en partenariat avec Microsoft. On participe à tous les bêta tests, toutes les versions préliminaires pour vraiment avoir une expertise sur ces solutions. Et donc depuis cet été, donc on a été racheté par France Télécom et donc on devient le centre d'expertise Microsoft d'Orange Business Services.
Alors, de mon côté, donc moi, je fais partie de la société Agilecom avec mon mari qui s'appelle Bernard Fedotov, que vous verrez demain sur une présentation sur ALM. Moi, je suis consultante technique et fonctionnelle donc sur Dynamics CRM. J'ai une culture très orientée développement et il y a déjà un moment, je me suis intéressée à ce produit qui est créé en .NET avec une architecture SOA. Et du coup, en venant sur ce produit, ben, j'y suis restée et maintenant je travaille beaucoup donc en transfert de compétences sur des projets, notamment avec des partenaires comme Alcy, qui est un excellent partenaire français sur le sujet. Voilà. Alors, on va passer au vif du sujet. Voilà l'agenda de cette session. Très, très rapidement, on va parler un petit peu donc de cette nouvelle version 2011 de Dynamics CRM, notamment des piliers qui la constituent. Ensuite, on vous propose donc de basculer assez rapidement sur Azure et on voudrait explorer avec vous deux scénarios d'intégration entre CRM Online et Azure. Un qui fera intervenir ce qu'on appelle App Fabric de Windows Azure et un autre qui permettra donc de fonctionner directement avec Windows Azure. Alors, d'abord, donc cette nouvelle version, CRM, pour rappel, c'est la suite complète de gestion de la relation client que propose Microsoft. Et on retrouve les briques classiques, les process métiers classiques et standards de la CRM, que sont la vente, le marketing, le service client. La particularité, peut-être, de cette solution, c'est sa capacité à proposer du CRM maintenant de plus en plus étendue. On va de plus en plus vers des solutions XRM, c'est-à-dire qu'au-delà du Customer Relationship Management, eh bien, vous pouvez utiliser Dynamics CRM comme une véritable plateforme qui va vous permettre de faire bien autre chose comme Relationship Management. On peut tout imaginer là, hein. Il y a vraiment des capacités d'extension formidables. Voilà, en termes d'accès, c'est une suite qui peut être accédée via Outlook, donc depuis un PC, ou depuis un navigateur, c'est fondamentalement une application web, ou même un terminal mobile. Et en termes de mode de consommation, là, il y a une petite originalité aussi, c'est qu'il y a plusieurs modes possibles, notamment vous avez donc le mode sur site, qui est le mode classique, mais il y a également un mode hébergé, notamment au travers des partenaires Dynamics. Et la dernière, c'est donc CRM Online avec une offre directement donc sur le cloud, puisque à Dublin, il y a un serveur qui permet donc d'exploiter CRM directement en ligne chez Microsoft. Alors, les piliers de cette nouvelle version, c'est une version qui est extrêmement enthousiasmante par rapport à la version 4. On voulait faire un petit sondage d'ailleurs avec Tanguy. Qui connaît CRM 4 dans cette salle ? Pas beaucoup d'entre vous, ok, très bien. Juste pour positionner un petit peu notre discours. Alors, je vous disais une version super enthousiasmante. En effet, elle est notamment de plus en... Enfin, il y a un gros effort qui a été fait pour qu'elle soit de plus en plus familière. Il faut voir que c'est une solution métier qui s'adresse à des gens qui sont non technophiles. Donc, il faut une interface qui soit la plus intuitive possible, la plus rapide, la plus facile d'accès possible. Et c'est exactement le cas de cette nouvelle version. Beaucoup d'intelligence aussi. C'est une application, une solution qui est beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuelle. Il y a des nouveaux formats de reporting, beaucoup d'analytiques, de possibilités en matière d'analytique qui font de cette solution une application vraiment intéressante. Et au niveau connectivité, comme je vous le disais, c'est une application qui, de par son architecture SOA, est nativement conçue pour s'intégrer avec le reste, notamment de l'environnement Microsoft, mais pas seulement. Et vous avez donc de formidables possibilités d'extension autour de ce produit et des intégrations natives, par exemple avec SharePoint ou avec Office, que vous pouvez donc exploiter directement. Juste un petit mot aussi sur la Dynamics Marketplace. Microsoft sort donc cette vitrine de toutes les extensions que vous pouvez développer justement autour de cette solution. C'est une vitrine en ligne, un marketplace disponible en ligne où vous pouvez retrouver ou pas seulement consommer, mais aussi déployer justement vos propres solutions autour de Dynamics CRM. Alors, juste quelques mots sur l'offre online. Là, vous avez les grandes caractéristiques. Sachez juste que CRM Online, en termes de fonctionnalité, est rigoureusement identique à une version sur site. Donc, c'est la même richesse, et pas seulement d'un point de vue fonctionnel, mais aussi d'un point de vue personnalisation, ce qui veut dire que c'est une solution qui s'adresse à tous les types d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises. Et pas parce que vous êtes une petite structure ou une grosse structure que ce n'est pas pour vous, bien au contraire. Hein. C'est une solution qui est vraiment facilement accessible. Pour la tester, c'est simple, vous allez sur le site de Dynamics et vous pouvez, en quelques minutes, vous créer une organisation et c'est immédiatement disponible pour faire des tests. Il y a une version d'évaluation de 30 jours, hein, voilà. Avec un simple Windows Live ID, vous pouvez tout de suite voir ce que CRM a dans le ventre. Voilà, alors donc, c'est juste ce qu'on dira sur cette nouvelle version. Maintenant, je vous disais, ça pose de nouvelles questions et notamment, on voudrait donc vous parler des possibilités autour de Windows Azure. Donc, juste un petit mot sur qu'est-ce que Windows Azure, histoire de repositionner le sujet pour ceux qui ne le savent pas. Il faut savoir que donc, c'est un système d'exploitation qui est distribué sur des milliers de machines installées dans des data centers et réparties sur le globe. Il y a en gros trois grandes briques dans Windows Azure. Vous avez Windows Azure avec un service de compute. C'est un service d'exécution pour héberger et exécuter justement nos applications qu'on mettrait sur le cloud. Un service de storage pour, pareil, gérer donc des données, avec une brick management pour gérer justement nos applications déployées et nos données sur Windows Azure. Vous avez une deuxième brique qui s'appelle donc Microsoft SQL Azure, qui est en fait le pendant de SQL Server 2008 R2, dans le nuage, dans le cloud, avec un portail aussi de management pour gérer vos bases de données relationnelles déployées. Et puis une brique qu'on appelle App Fabric, donc Windows Azure Platform App Fabric, qui propose des services équivalents à .NET, notamment, on va le voir aujourd'hui en action, la possibilité d'utiliser un canal de communication pour faire transiter de l'information sur le nuage entre nos applications, qu'on appelle le service bus. Il y a également une brique extrêmement importante qu'on appelle l'Access Control, qui est un service de contrôle d'accès, comme le montre la petite patte blanche ici. Pour faire circuler de l'information sur le nuage, c'est bien, mais il faut un minimum donc, de sécurité. Donc, il y a ce service que vous pouvez exploiter hein, depuis vos applications. On peut l'intégrer dans nos propres applications pour faire transiter de l'information donc de manière sécurisée sur le nuage. Voilà, il y a plein d'autres choses pour gérer nos workflows, pour gérer du cache, pour gérer les services WCF, etc. Hein, c'est la brique App Fabric. Alors, il faut savoir que pour développer sur Windows Azure, eh bien, on peut utiliser les outils classiques que vous connaissez, j'espère, que sont par exemple Visual Studio ou les technologies comme Microsoft.NET. Mais pas seulement, hein, on peut aussi exploiter par exemple des langages tiers comme PHP, Ruby ou encore Java. Alors attention, l'idée du nuage, ce n'est pas forcément de tout mettre sur le nuage ou de reproduire, tout ce qu'on a sur site. L'idée, au contraire, c'est plus de faire une symétrie de ce qu'on a sur site dans le nuage et de mixer un petit peu les deux modes de consommation. Vous pouvez faire des choses sur site et faire des choses dans le nuage et intégrer les deux. Alors, c'est vraiment une symétrie. Hein. Vous reconnaissez en face de Windows Server, bah, sur le nuage, vous avez Windows Azure. Le pendant de SQL Server, ça va être SQL Azure. On a vraiment une symétrie à ces niveaux-là. Vous avez les outils, je vous disais, qui sont communs, hein, qui sont Visual Studio, .NET. Et puis, dans la couche applicative, on peut également imaginer donc, des applications qui sont soit sur site, soit dans le cloud, comme c'est le cas pour Exchange ou SharePoint, qui propose aussi donc, des versions online. Et c'est le cas donc pour Dynamics CRM, c'est là que se positionne donc la solution de gestion de la relation client de Microsoft, avec donc pareil une application qui est disponible à la fois sur site, mais aussi une version directement accessible sur le cloud. Tout ça repose hein, sur le même socle technologique côté client, Windows, Windows Mobile, et puis les technologies comme Microsoft.NET, Silverlight, Office et autres. Alors, si on regarde les scénarios d'intégration entre CRM et Azure, en fait, il y a en gros deux grands scénarios qu'on peut distinguer. Le premier, c'est l'utilisation d'App Fabric pour faire circuler de l'information sur le fameux service bus, le canal de communication donc de App Fabric. CRM Online, justement, comme il est sur le cloud, peut avoir besoin de communiquer, bah, ne serait-ce que par exemple avec votre système d'information local. Typiquement, on voudrait pouvoir synchroniser des données dans un ERP ou peu importe, sur n'importe quel applicatif local dans l'entreprise. Et du coup, bah, il n'y a pas d'autre choix que de passer par ce service bus pour faire communiquer les deux. Le deuxième type de scénario, c'est des scénarios qui exploitent donc Windows Azure, cette fois, et non pas App Fabric, donc la première brique qu'on a vue tout à l'heure à gauche. Et là, le principe, c'est d'exploiter Windows Azure pour héberger vos données, soit des applications, par exemple des applications web ou des services, WCF typiquement, qu'on pourrait exploiter dans CRM Online, soit par exemple au travers des iframes, soit dans du code JavaScript, dans les formulaires de saisie de CRM Online. Là, l'idée, c'est plus de développer des extensions autour de CRM et de les pousser sur Azure pour les faire interagir donc avec CRM Online. Alors, on va regarder ces deux scénarios dans le détail et Tanguy va nous faire des démonstrations. Le premier, c'est l'utilisation d'APP Fabric. Donc là, l'idée, c'est que combiné au service de contrôle d'accès de APP Fabric, eh bien, Windows Azure propose donc un bus de communication sécurisé pour faire transiter de l'information sur le nuage. Ce qui se passe, c'est que dans CRM, un des modes d'extension extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle les plugins. C'est la capacité de venir brancher, d'où le mot plug-in, de venir brancher dans le pipeline d'exécution de CRM des règles de gestion qu'on écrit en .NET. Ce sont des programmes qui vous permettent de vraiment d'imaginer toute forme de règles de gestion qui vient étendre en fait le fonctionnement de base de CRM. Et le principe eh bien, de ce service bus, ça va être de récupérer ce contexte d'exécution en exploitant un plugin et d'envoyer le contexte d'exécution de CRM sur le service bus pour le transmettre à une application tierce. On obtient un scénario de ce type-là. Comment ça se passe? Tout à droite, vous avez une application tierce qui va se comporter comme une espèce d'écouteur. On parle de listener. C'est une application qui va scruter, écouter un point d'accès sur Windows Azure. On appelle ça un endpoint. On va définir un endpoint sur Windows Azure. Et ce listener, il écoute ce point d'accès du service bus. De l'autre côté, vous avez donc un utilisateur CRM qui va réaliser une certaine action, une opération dans CRM. Du coup, cette opération en interne dans CRM va s'exécuter dans le pipeline d'exécution de CRM. Et là, on vient brancher un plugin qui, lui, va prendre le contexte d'exécution de CRM et va l'envoyer sur le service bus. De sorte que notre application tierce qui écoute ce service, sur ce même point d'accès du service bus, va pouvoir aller lire l'information et la traiter, l'exploiter. Alors, il y a un certain nombre de choses à faire pour mettre en place ce système, ce principe de fonctionnement. En fait, il y a donc un plugin à développer côté CRM. Il y a, heureusement pour nous, dans CRM Online, plein de choses qui sont déjà en place, du fait que c'est une version de CRM qui est online. Eh bien, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues pour fonctionner avec Windows Azure. Et notamment, il y a un plugin qui est tout près, qu'on appelle le Service Bus Plugin, qui permet d'envoyer le contexte d'exécution de CRM sur le service bus. Le principe, là, c'est qu'on laisse faire CRM. Ce plugin, il est déjà écrit. Il s'occupe juste d'envoyer donc notre contexte à nous sur le nuage. L'autre possibilité, c'est de faire un plugin personnalisé, donc d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, d'écrire soi-même la tuyauterie qui envoie donc l'information sur le nuage, mais qui va surtout permettre de brancher un traitement. Notamment, une des choses extrêmement intéressantes avec un plugin personnalisé, c'est que le listener qui va récupérer les données qu'on a envoyées sur le nuage peut éventuellement nous envoyer une réponse. Il se peut qu'on aille demander quelque chose dans un ERP, qu'on aille vérifier par exemple l'encours d'un client avant d'accepter une commande dans CRM. Eh bien, on a besoin de savoir si cet encours il est satisfaisant ou pas. Eh bien, donc, avec un plugin personnalisé, on peut récupérer ce type d'information envoyée par le système d'information de l'entreprise et le traiter. Une autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle une activité de workflow personnalisée, mais ça, ce n'est pas supporté par CRM Online. Donc, on ne va pas s'étendre sur le sujet aujourd'hui. Dans CRM, l'élément vraiment au cœur du fonctionnement de cet envoi sur le service bus, c'est ce qu'on appelle le service asynchrone. C'est un service qui permet de poster, comme son nom l'indique, en asynchrone, des informations donc, sur le service bus. C'est vraiment lui qui gère l'envoi et la communication avec le service bus. Au niveau d'APP Fabric, il faut définir ce qu'on appelle un namespace et surtout des points d'accès dans ce namespace. C'est là qu'on va brancher notamment notre listener pour écouter ce qui se passe sur le service bus. Il y a bien sûr, vous allez voir, des problématiques aussi d'access control, puisque il faut que CRM soit reconnu comme un émetteur légitime pour avoir le droit de poster de l'information sur le service bus. Et pareil, le listener doit être reconnu également. pour cela, du coup, on définit sur ces points d'accès ce qu'on appelle des contrats. On passe une sorte de contrat. Vous avez, expliquer ça extrêmement simplement, un contrat, c'est vraiment ce qui va définir la manière dont les messages vont transiter sur le service bus et quelles vont être les règles de sécurité associées. Par exemple, un contrat de type QUD, le mécanisme est que l'information est postée dans une file d'attente sur le service bus et en fait, on vient dépiler tout simplement la file d'attente. Un contrat one-way, c'est qu'il n'y a pas de réponse, on envoie de l'information sur le service bus. Il faut qu'il y ait un listener, d'ailleurs, de l'autre côté, qui écoute, hein, sinon ça ne marche pas. Et le listener, ben, il va traiter l'information directement. Il n'y a pas de réponse attendue. Le two-way, au contraire, on attend une réponse. Donc, quand on passe un contrat two-way, on sait qu'il y a de l'information qui va transiter dans un sens et que le listener va envoyer de l'information dans l'autre sens. Et enfin, le contrat de type REST, ça, c'est pour adresser des technologies autres que Microsoft et Visual Studio. C'est la possibilité d'envoyer donc l'information sur une simple URL et ça va se comporter exactement comme un contrat two-way. On va pouvoir récupérer une réponse dans l'autre sens.
Le point important bien à noter, c'est que l'utilisation d'un contrat QUD ne nécessite pas que vous ayez un programme qui écoute le service bus. Donc c'est des traitements qui sont complètement asynchrones. Ça permet d'éviter des problèmes de connectivité réseau. Là où un one-way ou un two-way va requérir absolument qu'il y a un listener qui écoute le service bus pour que le message soit posté de la CRM vers le service bus.
Sinon, il n'est pas posté
ouais. Du tout s'il n'y a pas de listener actif. Donc, quand on veut adresser des problématiques avec potentiellement des problèmes de connectivité réseau, on va plutôt travailler avec des contrats QUD pour s'assurer que le message est bien posté sur le service bus. Et après, on va aller le consommer à la volée, vers un service. Ouais, voilà.
Au besoin. Côté donc système d'information, il faut écrire dans ce qu'on appelle un écouteur d'événements. Donc là, on implémente tout simplement une interface et on définit donc également le contrat que l'on va exploiter au travers de l'écouteur. Quand on est sur une file d'attente, c'est pas tout à fait une interface. On implémente en fait on doit utiliser un appel donc générique qui s'appelle GetBody. Bon, là, on va pas forcément rentrer absolument dans les détails. Alors, en termes de config. Pour mettre en place ce genre de scénario, et là, CRM a ses petites particularités, mais vous utiliseriez le service bus dans un autre contexte pour faire interopérer différentes applications, ça serait le même système. Il faut d'abord obtenir et installer donc des certificats sur le serveur dynamique CRM. Avec CRM Online, ces histoires de certificats, c'est extrêmement simplifié, puisque vous avez directement disponible dans l'interface un outil qui permet de générer le certificat qui va bien. Donc, c'est absolument pas compliqué à ce niveau-là. Pareil pour l'intégration entre CRM et App Fabric. Avec Online, elle est déjà native. Donc, c'est extrêmement simple. Ensuite, donc ce qu'on a fait là pour la démonstration qu'on va vous montrer, c'est qu'on a créé un projet App Fabric donc sur le portail d'Azure, hein, avec les outils avec le portail d'administration d'Azure. On a configuré un point d'accès. Alors là, vous allez voir que c'est ce qu'on appelle le Plugin Registration Tool. C'est un outil disponible pour Dynamics CRM qui permet de déployer donc des plugins dans CRM. On enregistre donc son plugin avec ce même outil. On écrit un écouteur d'événements. On va l'exécuter et on regarde ce qui se passe entre l'écouteur et CRM. Alors, je vous propose de faire une démo avec Tanguy pour voir ça en images.
Alors, juste un petit rappel donc avec ce schéma sur comment fonctionne Dynamics CRM vis-à-vis des plugins. Donc vous voyez donc sur la gauche le composant service web. En fait, toute action sur la CRM, que ça vienne réellement de l'application ou de code qu'on aurait pu développer nous-mêmes, va passer au travers de service web CRM et va arriver donc dans un contexte d'exécution. Qui va nous permettre en fait d'intercepter, donc en pré-événement, vous voyez à gauche, le bloc à gauche, ou en post-événement, on va pouvoir intercepter les messages qui sont envoyés à la base de données et les modifier. C'est-à-dire en pré-événement, on va pouvoir rajouter de la donnée, faire du contrôle de données avant que ce soit réellement intégré dans la base de données de l'application. Et en post-traitement, on va pouvoir continuer des traitements suite à des actions qu'auront fait l'utilisateur. Donc quand on est vraiment dans le cadre du pipeline d'exécution, on est en mode synchrone et puis après, on va pouvoir pousser également des événements dans la file d'attente des traitements asynchrones. Et c'est cet élément-là qui va nous servir pour poster de l'information sur le service bus Azure, qui va pouvoir être ensuite exploité par le service de traitement asynchrone. Alors, D'accord. Donc on va passer sur l'autre poste. Tu veux peut-être montrer, enfin tu peux préparer la page sur le.
Moi je vais aller sur CRM Online et je vais faire l'utilisateur qui exploite l'application pour faire une opération.
Alors donc là je vais vous montrer deux choses en termes de code. Donc le code du listener, hein, ce composant qui va écouter ce qui se passe sur la CRM. Enfin sur le service bus d'Azure, pardon. Et puis, je vais d'abord commencer par vous montrer donc, le Plugin Registration Tool, donc cet outil qui nous permet d'enregistrer des événements dans la CRM. Donc, je suis connecté ici sur l'organisation Agilecom, qui est la CRM de Christine, et je vois toutes les assemblées qui sont déployées. Donc, les assemblées, ça va être des codes personnalisés qu'on réalise. Et puis, il y a également ici un service endpoint. Donc, le service endpoint, c'est ce qu'évoquait Christine, c'est ce branchement qui est préparé pour Azure. Donc c'est moi qui ai préparé ce branchement. Donc si je vais dans les propriétés, on voit ici un solution namespace qui est en fait le namespace que Christine a créé sur Azure. Donc ça me permet de dire sur quel bus Azure je veux me connecter. Enfin, je veux envoyer les messages, pardon. Ensuite, on a un chemin. Le chemin sert uniquement à compléter ou à construire une URL qui sera utilisée également par le listener pour savoir, voilà, je pose des informations sur un bus et l'application récupère les informations sur ce même bus. Donc, on pourrait créer plusieurs chemins pour plusieurs applications qui utilisent le même service bus. Ensuite, j'ai le contrat que je veux utiliser. Donc, on retrouve les différentes valeurs évoquées par Christine tout à l'heure, donc le one-way, le queue, le two-way et le reste. Ici, mon point d'accès, mon service endpoint, donc je le mets en two-way, puisqu'il va pouvoir me servir pour faire du one-way et du two-way. Si je fais du one-way, simplement, je ne vais pas exploiter de valeur de retour, ou si on m'envoie une valeur de retour, elle va être perdue, mais ce n'est pas grave. En termes d'authentification de claim, ici, je n'ai rien à faire de particulier, puisque je vais configurer le contrôle d'accès grâce à ce petit bouton. Donc, on va voir ce qu'on peut mettre dedans. Donc, pour configurer les accès entre la CRM et Azure, on me demande une clé de gestion. Cette clé de gestion, en fait, on la récupère sur le projet qu'on aura créé sur le portail Azure.
On va regarder
effectivement rapidement pour voir les valeurs.
Là, on est sur le portail d'Azure. Vous voyez, je suis connectée sur la partie APP Fabrique. J'ai le contrôle d'accès et le service bus. Et j'ai notamment, donc, au travers de mon abonnement, configuré un namespace avec effectivement donc, mon projet. Donc là, j'ai un ID de projet et surtout, j'ai les fameuses clés dont Tanguy va avoir besoin ici. Voilà, qui me permettent d'accéder à mon endpoint de manière sécurisée.
Voilà, donc ici, je vais pas le faire devant vous puisque c'est déjà configuré, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, je vais simplement copier la clé de gestion qui était donc fournie par Azure. Ça, c'est la clé qui va me permettre réellement de pousser les ACS dans ce projet Azure. Ensuite, j'ai besoin de définir un certificat, de fournir un certificat. Donc là, on va regarder aussi sur le poste de Christine. Vous allez voir donc dans paramètres et personnalisation, la CRM, ressource du développeur, voilà. La CRM nous propose déjà de télécharger le certificat qui va permettre de faire l'interaction, enfin de configurer l'interaction entre les deux éléments. Et on a surtout aussi le nom de l'émetteur qui est marqué au-dessus, qui est crm4.dynamics.com. Alors c'est toujours le même nom d'émetteur pour toutes les organisations CRM Online, mais le certificat, lui, est vraiment dédié à cette organisation. Donc ici, voilà, je vais pouvoir définir le certificat donc, que j'aurais téléchargé de mon organisation CRM. Et le issuer name, c'est le nom qui était défini, le nom de l'émetteur qui est défini également dans CRM, donc crm4.dynamics.com. Quand j'aurai défini ces informations-là, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Configure ACS et ça va intégrer dans le projet Azure toutes les informations pour que les plugins de la CRM puissent communiquer avec le service bus sans qu'il y ait de problème d'authentification. Donc ici, une fois que j'ai défini mon service endpoint, je peux ajouter ici donc, ce qu'on appelle des steps. En fait, c'est les étapes d'interception réellement d'une action sur l'application CRM. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je définis que je vais intercepter le message win, donc gagner, pour une opportunité. Donc ça veut dire que dès qu'on va gagner une opportunité dans l'application CRM, je vais demander que le message, enfin le contexte d'exécution, soit poussé sur le service bus. Pourquoi est-ce que ça va être poussé sur ce service bus ? Mais parce que mon step, mon étape est juste enfant, en fait, et sous ce service endpoint. Donc le fait de configurer que j'envoie le contexte sur le message win de l'opportunité, voilà, dès que cette action va se passer sur la CRM, ça va envoyer des informations sur le service bus. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a besoin donc, de développer un composant, un listener, qui va permettre d'interroger le service bus, ce qui se passe sur le service bus. Alors ici, j'ai fait une petite application WinForm toute classique. Je définis juste un service host que je vais configurer. Alors, en termes de configuration, donc, je retrouve mon service namespace, qui est le namespace du projet Azure que Christine a créé. Je retrouve mon service pass, donc le chemin où je peux retrouver les messages qui vont être postés de la CRM. Donc c'est listener, c'est la même chose qu'on avait dans mon outil d'enregistrement des plugins. À partir de là, ça me permet de construire une adresse pour le service bus. Ça, c'est des méthodes du SDK Azure. Donc ça me permet de récupérer réellement l'adresse sur laquelle je dois écouter. Et en termes de sécurité, j'utilise ici l'issuer name qui est owner, donc c'est-à-dire le propriétaire du projet AppFabric Azure. On pourrait très bien, vous pourriez très bien créer d'autres issuers, donner des droits d'accès à plusieurs personnes, à différentes personnes, pour différents profils. Et donc, à la suite de ça, on définit également quelle est la clé de gestion qu'on utilise pour s'authentifier sur l'AppFabric. Donc voilà mes deux informations. Bon, je passe un peu rapidement. Après, on crée simplement un objet de type credentials qui va réutiliser l'issuer name et l'issuer key. À partir de là, donc, je définis mon binding vers le service bus Azure. Alors, je passe un peu vite, il n'y a rien de très, très intéressant. Sauf ici, en fait, où je définis quel est le type de mon service host. Une fois que je définis mon service host, quel est l'élément qui va réaliser le traitement une fois qu'on aura une interception d'événements sur le service bus. On voit ici To Endpoint, c'est ma classe qui est juste à côté. Donc j'y vais tout de suite. On voit ici que j'implémente l'interface E2Way Service Endpoint Plugin. Donc ça indique bien que je vais faire du two-way, hein, on est d'accord. C'est l'élément que j'avais défini également dans mon outil d'enregistrement des plugins. Dans mon contrat, j'avais dit que ce serait un two-way. Donc une fois qu'on a implémenté l'interface, eh bien, les composants de cette interface, c'est la méthode execute, qui me passe ici un remote execution context, qui n'est rien d'autre que le contexte du plugin, de ce qui s'est passé réellement dans la CRM. Donc à partir de là, je vais pouvoir récupérer un enregistrement qui est une fermeture d'opportunité, c'est ce que me passe le plugin. Et puis, je vais pouvoir afficher de l'information après. Ici, j'ai une petite méthode qui va m'afficher une fenêtre pour me dire ce qui s'est passé et quelle est l'opportunité qui a été fermée.
Évidemment, là, l'idée, c'est d'exploiter l'information qu'on récupère du service bus pour faire quelque chose de voilà. Plus fonctionnel que ce qu'on va vous montrer.
Donc là, vu que je suis en two-way, j'ai la possibilité, vous voyez, de retourner un argument de type string. Donc si je retourne juste simplement le message success, on verra dans un deuxième exemple que je peux exploiter cette chaîne de caractères dans la CRM. Donc là j'ai défini sur quel allait être le comportement de mon service host une fois que j'intercepte l'événement. Et puis je pense qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Sur mon host, en fait, sur l'endpoint, j'ai mon endpoint qui me sert à réellement faire l'authentification, donc le shared secret service, et le service registries pour savoir où est-ce que je me connecte. J'ai besoin d'ouvrir mon hôte pour qu'il l'écoute effectivement. Et juste pour la démonstration, j'affiche un petit ballon pour bien indiquer à l'utilisateur à quel moment on est réellement connecté sur le service host. Donc là, on est prêt. Toi, tu es prêt aussi. Donc je vais le lancer.
À toi de jouer d'abord.
Alors, est-ce que j'ai un point d'arrêt? Voilà, donc j'ai bien un point d'arrêt. Donc ici, on va pouvoir intercepter tout de suite. Dès qu'il y aura un événement, on va pouvoir l'intercepter dans mon code. Donc si ça me lance une petite icône sur mon application, voilà, j'ai le petit ballon qui apparaît pour me dire que ça y est, je suis en train d'écouter sur le service bus et on peut donc envoyer des messages.
Donc à partir de là, moi je suis dans l'application Dynamics CRM, dans l'espace des ventes, au niveau des opportunités de mes affaires et en tant que commercial, je décide que donc cette affaire, on va bien la repérer, 18 produits REF machin là, hop, on va dire qu'elle est fermée comme conclue. Donc je décide d'enregistrer l'affaire comme gagnée.
Voilà. Alors, juste avant qu'elle clique, dès qu'elle va cliquer, je vais switcher sur l'écran pour qu'on revienne sur mon écran et qu'on voit bien ce que. Alors, après, les temps de traitement sont plus ou moins variables. Hein. Normalement, ça tourne assez rapidement. Mais bon, on ne sait jamais.
C'est bon.
Voilà. Donc, je repasse sur mon écran. On va attendre et normalement, dès qu'il y a une interception, ça va intercepter le point d'arrêt qui est dans mon code et ça me devrait m'afficher une petite fenêtre. Donc là, c'est le moment où j'essaye de parler pour attendre et faire passer le temps en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. C'est une très bonne question. Le fond d'écran s'appelle Haïti. Peut-être en Haïti, mais...
Faut demander à Bing.
Faut demander à Bing, ouais.
Tiens.
Donc voilà, suivant les tests, ça peut prendre de 5 secondes à...
Des fois, ça prend un peu plus longtemps.
À longtemps. Ouais. Donc on espère pas avoir l'effet démo. Voilà, donc là, j'ai mon interception qui se passe. Je descends juste. Ah ouais, moi, j'ai pas encore été au bout, effectivement. Hop, pardon. Voilà, donc si j'intercepte mon message, je récupère l'enregistrement en fait, qui m'indique les informations sur ce qui s'est passé. Donc si je vais dans les attributs, rapidement, pour vous montrer qu'on retrouve ce qu'a marqué Christine. Voilà, la description ici, elle avait marqué gagné, donc on retrouve cette information ici. J'ai l'information sur le sujet de l'opportunité également, la date de clôture de cette opportunité, j'ai l'ID de l'opportunité. Donc à partir de là, je pourrais réellement faire des traitements dans mon système local, hein, sur mon ERP ou sur un autre système. Je peux vraiment faire de l'intégration entre ce qui se passe du côté CRM Online dans mon système d'information local. Donc ici, juste pour la démonstration, donc je continue, je fais F5. Hop, deux fois. Et donc ici, on voit, là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, qui m'indique quelle est l'opportunité gagnée. Bon, ça, c'est juste pour le côté graphique et démonstration. Mais voilà, on voit, donc là, on vient de démontrer la possibilité, en ayant un CRM hébergé online, de récupérer de l'information sur ce qui se passe sur cette CRM dans mon SI local. Ce qui va me permettre donc, de réaliser des traitements. Là, on était sur du one-way.
Et maintenant, moi, je voudrais une réponse, s'il te plaît, de ce qui se passe en local.
Alors maintenant, on veut une réponse. Donc, pour faire une réponse, pour faire du vrai two-way, on est obligé de développer un plugin personnalisé. On voit ici que je n'avais pas développé de plugin, j'ai juste défini une étape en disant « j'envoie un message, win, sur l'opportunité, pas plus ». Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est… Alors, je suis où ? On veut… Donc, on va développer un plugin. Donc, le plugin, un développement de plugin dans la CRM, c'est pas très compliqué. On fait une classe qui va hériter de l'interface e-plugin. Et en fait, qui va récupérer, enfin, qui a une méthode exécute, cette interface. Donc, de quoi j'ai besoin pour faire un plugin personnalisé ? Dans mon constructeur, en fait, je passe une chaîne de configuration qui est l'ID, l'identifiant unique de mon service endpoint que j'ai défini dans mon outil d'enregistrement des plugins. Donc, on verra après la partie configuration. Enfin, vous voyez juste qu'en fait, je définis dans Entity ID l'identifiant de mon service endpoint, donc de ma connexion vers Azure. Ensuite, exécute, c'est dès qu'il se passe quelque chose sur la CRM que j'aurais décidé, eh bien, on va avoir, alors je vais le faire en plusieurs fois, donc on a notre plugin d'exécution, notre contexte qui est ici, on a notre notification service, cloud service, donc c'est cette classe qui va nous permettre d'envoyer l'information sur le bus, donc si j'arrive pas à trouver cette information, forcément j'ai un petit message d'erreur. Voilà, donc ça c'est les informations pour récupérer mon service web CRM. Donc j'en parle pas trop. Ici, je récupère la même chose que j'avais dans mon autre code, qui est l'enregistrement de fermeture de l'opportunité que je récupère, parce que c'est dans mon contexte d'exécution du plugin que j'ai cet élément-là. Et là, ici, grâce à la classe donc Cloud Service, je fais un execute, et en fait, c'est ça qui me permet de pousser réellement mon contexte sur le service bus Azure. Donc je fais une nouvelle référence d'entité vers mon service endpoint, avec l'ID que j'ai récupéré de ma configuration, et je pousse ici le contexte d'exécution de mon plugin, qui était au début.
Ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure dans le premier scénario, si vous avez bien suivi, parce que dans le premier scénario, on a exploité le service plugin contexte, qui est un plugin déjà natif proposé par CRM Online, qui faisait justement toute cette tuyauterie d'envoi du message sur le service bus. Là, comme on écrit quelque chose de personnalisé, on est obligé de reprendre cette tuyauterie, mais tu as repris des lignes du...
Voilà,
du SDK, c'est pas...
Voilà, j'ai rien inventé du tout, hein. Tout ça est déjà dans le SDK. Donc si on résume, c'est simplement préparer le service endpoint, récupérer les informations ici et ici de la CRM qui me sont passées via le contexte d'exécution du plugin, appeler donc finalement le service bus pour lui envoyer des données, ici mon contexte, et récupérer une réponse. Cette réponse, qui donc ce qu'on avait dans mon listener tout à l'heure, qui sera le message success, je vais juste l'utiliser alors très simplement pour créer en retour une tâche dans la CRM, donc un enregistrement de type tâche, dans lequel j'écrirai voilà, le retour du SI avec, donc il y aura ici success, puisque c'est le terme statique que j'ai mis dans mon code, avec une date de démarrage qui sera à demain. Voilà, donc ça, je prépare mes éléments, et ensuite je crée ici ma tâche. Donc on va refaire exactement la même opération. On va toujours utiliser, je vais laisser, voilà, il est toujours lancé ici mon listener. Christine va gagner une opportunité, encore une fois. Et puis, on va pas forcément mettre de point d'arrêt cette fois-ci, ce qui n'est pas forcément d'intérêt. Ça va être exactement la même chose. Par contre, on ira voir que dans la CRM, du coup, on aura bien une tâche qui va être créée et qui devrait, si je me rappelle bien, être attachée à l'opportunité.
Oui.
Voilà, oui, c'est bien attaché ici grâce à mon, grâce à la propriété Regarding Object ID. Je l'attache bien à l'opportunité. Donc Christine va regagner
une opportunité. Cette fois-ci, je l'ouvre d'abord pour vous montrer dans l'enregistrement que quand on va dans la liste des activités de l'enregistrement, ben, il n'y en a pas, puisque l'idée, c'est justement d'en générer une au travers de la communication avec le poste de Tanguy. Donc là, je vais simplement gagner mon opportunité en disant « fermer comme conclu ». On va la noter parce que si on veut y retourner, « stock de produits, ref, ok ». Donc « fermer comme conclu ». Je marque « Tech Desk Genève ». Voilà. À toi. Il faut que tu rebascules.
Okay. Non, mais c'est bon, on ne prend pas le point d'arrêt, ça sert à rien.
Ouais, mais on ne te voit pas.
Oui, mais il n'y avait pas besoin, c'est bon. On a déjà vu comment ça fonctionnait.
Bon, donc d'accord.
Pas besoin de le voir deux fois. Donc d'accord. Là, moi, je l'ai vu passer, hein, c'est arrivé. Donc maintenant, tu peux regarder dans les tâches, effectivement. Il devrait y avoir le retour.
Je vais sur les opportunités fermées. Donc c'était le réapprovisionnement.
T'es sûr que c'est celle-ci ?
Oui.
On va tomber sur l'effet démo.
Ouais, je pense que c'est celle-ci, effectivement, que j'ai fermée. Elle est ouverte, ton activité ? Ouais.
Ouais.
Est-ce que quelqu'un a suivi mieux que moi ? Et qu'est-ce que j'ai pris ? La première que j'ai fermée, c'est celle-ci tout à l'heure. Oui, 5 avril, elles sont là, toutes les deux. C'est le réapprovisionnement.
Ah non, je sais. Autant pour moi. On va le refaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bon, c'est trouvé. Alors, dans mon outil d'enregistrement des plugins, ici, j'avais mon service en one-way. Et ici, j'avais préparé mon service en two-way, mais je ne l'avais pas activé.
Ah, tu ne l'as pas activé. Ouais. On n'a pas changé de plugin, on était toujours sur l'autre.
Donc
plugin.
Je désactive le plugin one-way, qui est celui qui s'est déclenché.
On va prendre
donc ici, pour vous montrer, j'ai référencé ma DLL, donc qui s'appelle techdes.crmazure.plugins. Quand je référence cette assemblée, sont listées dessous toutes les classes qui implémentent l'interface e-plugin. Donc finalement, tous les éléments qui pourraient potentiellement intercepter des messages. Et puis, j'ai fait la même chose. Donc, j'intercepte l'événement, enfin le message win sur l'entité opportunité, sauf que cette fois-ci, effectivement, je vais être en two-way. Et ici, on voit donc dans la chaîne de configuration, c'est un identifiant ici qui correspond, si je sélectionne mon service endpoint, c'est l'identifiant qui est ici, qui est le service endpoint ID. Donc c'est cet élément-là qui me permet de dire, sur l'interception du message win de l'opportunité, c'est sur ce service endpoint que je veux envoyer les informations, parce que je pourrais avoir plusieurs service endpoint sur Azure. Donc voilà, je réactive l'étape de plugin, et on peut y retourner.
Il est lancé ? Ton listener, toujours ?
Le listener, il est toujours là.
Bon, alors je vais prendre celle-ci, l'opportunité s'appelle « Ils vendent de nombreux produits identiques aux nôtres ». Très bien. Fermé comme conclu. Ok.
Ce sera juste pour prouver que on est bien passé par là.
Ça passe là.
Voilà, donc là, on a bien l'interception. Hop, je le renvoie tout de suite. Et donc, normalement, cette fois-ci, ça devrait être bon.
Et là, voilà. La petite tâche avec normalement dans le corps de la tâche, il doit y avoir mon OK et ton success,
Il doit y avoir success uniquement, voilà. Résultat du SI, success.
Voilà.
Donc voilà, c'est. Désolé pour le petit problème. Donc voilà, on a ici démontré qu'on était capable donc, vraiment d'interfacer CRM Online avec le SI local en one-way ou en two-way. Donc on peut vraiment faire les deux. Sachant qu'avec une toute petite contrainte, si on reste sur du two-way, c'est qu'on a simplement 2 minutes de time-out d'exécution sur la CRM pour pouvoir faire les traitements. Donc si jamais on a besoin de plus de temps, on va plus passer par des contrats de type queued. À ce moment-là, on n'aura plus le souci puisque c'est vraiment le service bus qui fera les traitements. Et puis CRM.
Alors, deuxième scénario, c'est l'utilisation cette fois de Windows Azure. Donc là, l'idée, c'est plus d'exploiter le service de compute de Windows Azure pour héberger, exécuter nos applications. Donc là, ça serait plutôt dans un esprit de détente CRM avec des applicatifs de type une application ASP.NET ou un service WCF où on peut tout imaginer. Juste quelques mots sur l'architecture de ce service, enfin de cette brique Windows Azure. Vous avez en fait la possibilité de déployer dans le service compute deux types de rôles. Vous avez le rôle web role qui permet de déployer des applications web ou des services web, et le type worker role qui permet de déployer plus des applications de type service Windows, où ça sera l'équivalent de Daemon sous Unix. Donc des applications qui tournent en tâche de fond, qui n'ont pas forcément d'ailleurs une requête, un point d'entrée HTTP, comme le pourrait l'avoir donc le web role. Ce qui est extrêmement intéressant ici avec Windows Azure, c'est que Windows Azure pouvant gérer le nombre de machines virtuelles à disposition de notre applicatif, eh bien, il va prendre en charge le load balancing et répartir la charge sur les requêtes entrantes donc de notre application. De même, il garantit une excellente disponibilité puisqu'il y a toujours une machine qui sera à même de répondre à la charge de notre application. Dans la même brique, vous avez aussi donc le Windows Storage qui permet de stocker des données, soit des données de type fichier avec les blobs ici, soit des données de type message en file d'attente avec la queue, soit des données classiques, par exemple si vous vouliez mettre en place un dictionnaire de données, c'est la brique table. La seule limitation ici, notamment par rapport à SQL Azure, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre de données relationnelles, mais par contre on peut stocker toute forme de données, des objets, tout ce qu'on veut dans le Windows Storage. Alors, la vraie question, c'est pourquoi donc utiliser le nuage? Eh bien, pour les raisons que je disais il y a quelques minutes, avec notamment le load balancing, c'est-à-dire la possibilité de mettre en place des applications avec une forte montée en charge, une très grande disponibilité, puisqu'il y a toujours une machine qui répond à la charge. Cette charge, il faut voir qu'elle est complètement tunable par vous-même, hein, c'est-à-dire que vous pouvez exploiter le fait que... c'est à vous de définir le nombre de machines à disposition de votre application. Vous pouvez augmenter le nombre de machines, mais aussi réduire le nombre de machines. Par exemple, une application à charge variable ou voire même une application qui a une durée de vie extrêmement courte. Vous voulez qu'elle puisse répondre donc à un pic de charge à un moment donné, mais après, elle va... par exemple mourir, eh bien, vous pouvez exploiter Windows Azure en demandant un certain nombre de machines pendant un certain temps et ensuite en arrêtant la consommation de l'application. Voilà, on peut aussi exploiter bien sûr Windows Azure pour stocker des données, notamment stocker une grosse quantité de données. C'est extrêmement intéressant. Voilà, alors, si on revient à CRM, quel est l'intérêt pour CRM Online? Eh bien, c'est d'exploiter Azure pour, par exemple, héberger des pages web que l'on afficherait dans des iframes, dans CRM. Dans les formulaires de CRM, on peut étendre le formulaire avec des morceaux de pages complètement spécifiques où on peut tout imaginer. Donc, il suffit de développer cette extension avec ASP.NET, par exemple. Et du coup, Windows Azure est l'hôte idéal pour ce type d'extension. Vous pouvez aussi exploiter, bien sûr, Windows Azure pour écouter donc le service bus pour recevoir des données ou pour... pourquoi pas interroger les services web de CRM, puisque CRM est fondamentalement une architecture, s'appuie sur une architecture SOA, donc est complètement adressable au travers d'une couche d'API de services web qui permettent de faire ce qu'on veut sur CRM, écrire des données, lire des données, tout est possible. Voilà, alors là, quelques exemples de scénarios utilisant le nuage, par exemple pour des applicatifs de nettoyage d'adresses ou pour faire du partitionnement vertical avec un système de CDN. Ce ne sont que des exemples ici, hein, à titre d'information. En termes de configuration, par rapport à tout à l'heure sur le service bus, là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer en fait, sur Windows Azure, sur le portail, on crée ce qu'on appelle un service hébergé. On enregistre un certificat pour le déploiement. Et côté client, eh bien, on développe son application en vue de l'héberger sur Windows Azure. Pour la développer, eh bien, on crée un projet. Dans Visual Studio, vous avez un modèle de projet tout prêt. vous développez votre application ou votre service web et vous pouvez le déployer sur Azure, soit via Visual Studio, soit via le portail. Alors, si on regarde, on va passer à la démonstration. Si on regarde sur le portail cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais retourner sur mon portail global.
Alors, juste une notion aussi. Là où tout à l'heure, l'App Fabric, on allait surtout l'utiliser pour nous, pour notre organisation CRM et pour notre SI local, l'utilisation ici de Windows Azure pour l'hébergement de pages web peut également, ou de services même, peut également servir pour que vous puissiez proposer du service à des clients qui utilisent Dynamics CRM. Vous pouvez vraiment développer vos propres services, un service, comme le disait Christine, peut-être de vérification financière, transformation de devises, on peut imaginer toutes sortes de services, et vous allez pouvoir être fournisseur de services pour Dynamics CRM en hébergeant vos pages ou votre code sur Azure.
Et pourquoi pas s'inscrire dans la Dynamics Marketplace, par exemple ?
Et voilà, et proposer effectivement le fait d'intégrer ces fonctionnalités dans la CRM au travers du Marketplace.
Alors là, ça a l'air plus compliqué, mais ça ne l'est pas vraiment. J'ai juste donc défini un service hosted ici, dans mon portail Azure, avec des certificats à l'appui. Et j'ai déployé ce qu'on appelle un web role. Tiens, on en a deux. T'en as refait un ?
Il y a le staging et le...
Ah, il y a le staging et la prod. Donc, on a déployé un web role. Et là, on a deux instances de machines à notre disposition pour donc héberger, exécuter notre application. Donc, on va voir avec Tanguy comment déployer ça et comment doit être conçue cette application hébergée sur Azure.
Alors, le premier point, je pense que c'est pas mal de personnes qui doivent se dire « Bon, Azure, ok, c'est bien, mais ça va être trop compliqué pour moi. Je sais que faire de l'ASP.NET et Azure, c'est compliqué. » Alors, la première réponse, c'est que c'est pas du tout compliqué. Comme l'a dit Christine, vous avez des modèles de projets qui sont à votre disposition. Donc, si ici, j'ouvre une nouvelle version, un nouveau projet sur Visual Studio. Quand vous avez installé les outils pour Azure, enfin les outils Azure pour Visual Studio 2010, vous avez donc les templates cloud avec un projet Windows Azure. Vous faites OK et vous allez pouvoir choisir quel type de projet vous voulez développer. Ici, tout simplement, je vais faire un ASP.NET web role. Que je ne dise pas de bêtises, c'est bien ça.
Ouais.
OK. Et Visual Studio va préparer le travail pour moi. Si je vais dans mon explorateur de solutions, quand il aura terminé. Alors, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve mon projet Azure qui va me permettre de faire la configuration et le déploiement, et un projet ASP.NET classique. Et je dis bien classique, c'est-à-dire si vous allez faire de l'ASP.NET, vous avez un projet ASP.NET à votre disposition pour développer votre application. Donc, je ne vais pas revenir sur comment on développe un projet ASP.NET, ce n'est pas le sujet. Juste sur le projet Windows Azure, si on va dans les propriétés, on voit ici la possibilité de définir le nombre d'instances qu'on va vouloir pour notre application. Comme l'a dit Christine, si je vais avoir 10 personnes qui vont accéder à mon application tous les jours, une instance va peut-être suffire. Je vais en mettre au moins deux pour faire de la redondance et de éviter en fait, que le nœud tombe et puis que j'ai plus que mon service soit arrêté. Par contre, je vais pouvoir monter 10, 5, 5, 10, 20, autant d'instances que je veux si jamais vraiment je propose un service qui va être accessible par des milliers ou des millions de personnes. Il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir régler vous-même le nombre d'instances qui vous intéressent. Sachant que les instances sont à chaque fois dans les centres d'hébergement Windows Azure, sont séparées sur des lieux différents ou des topologies réseau différents pour être sûr que s'il y a un élément qui tombe, l'autre soit toujours actif. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis vous avez la taille de la machine virtuelle. Vous allez pouvoir définir si vous voulez une machine standard ou plus puissante. Donc vraiment, dans Visual Studio, vous définissez la façon de configurer votre web role dans Azure. Donc je passe sur le reste ici, pas forcément très intéressant. Par contre, vous avez ici deux fichiers qui vont vous servir à faire le déploiement directement sur le
portail.
Sur le portail. Si vous décidez de déployer via le portail, vous allez utiliser ces deux fichiers pour déployer votre web role. Par contre, vous avez aussi la possibilité, si je clique droit ici sur mon projet, de faire un publish. Publish, alors il y a quelques configurations à faire parce qu'il faut que je gère des credentials, donc je vais devoir créer un certificat ou avoir un certificat que je vais publier à la fois sur le portail et sur mon ordinateur et qui va me permettre de faire l'authentification entre les deux. Et puis je pourrais choisir mon environnement, est-ce que c'est mon environnement de staging ou de production. Et puis grâce à ça, je vais pouvoir faire le déploiement. Alors le déploiement, ça prend un peu de temps, donc on va le faire à partir de l'autre projet sur la fin de la session, parce que ça peut prendre jusqu'à 10 minutes pour déployer le projet. Alors, je reviens sur mon projet qui est déjà tout prêt. Ici, ce qu'on a voulu démontrer, c'est un exemple très très simple. C'est le fait de définir un code postal dans le formulaire compte de la CRM et que ça me récupère automatiquement la région auquel appartient le département associé à ce code postal. Donc, j'ai fait deux choses ici. J'ai développé un service WCF qui fait pas grand chose à part appeler une classe pour récupérer la région en fonction du code postal, qui est fait sur cette classe ici. Alors ça lit simplement un fichier XML qui est ici, vous voyez, très basique, j'ai même pas mis toutes les régions, et c'est français, je m'en excuse. C'était pour la présentation à Paris également. Donc voilà, le service fait uniquement ça, on lui passe un code postal, et il retourne une région. Et puis j'ai développé également une page web qui sera donc embarquée dans le formulaire CRM, où encore une fois, si on a un code postal qui est défini sur le formulaire compte, ça va afficher une iframe avec le code postal et la région à laquelle ça correspond. Donc un projet ASP.NET très très classique et surtout très simple. Donc on va aller sur le poste de Christine. Donc pour aller sur les comptes.
Alors le service WCF, tu l'appelles au travers de code JavaScript.
Voilà, on l'a appelé. On l'a appelé au travers le JavaScript. Donc je vous montrerai le code juste après, ou juste maintenant. C'est bon.
Oui, vas-y. Tu peux rebasculer.
Comme tu perdais ton micro.
Bah oui, excuse-moi, c'est automatique. Là.
Alors, c'est celui-là pour le premier. Donc, en fait, la CRM 2011 nous permet, à l'inverse de la CRM 4, où on devait embarquer le JavaScript directement sur les formulaires, nous permet de créer des fichiers JavaScript où on va développer nos fonctions. Ici, donc, j'ai créé une fonction getRegion avec le nom de l'attribut qui contient le code postal et le nom de l'attribut qui va stocker la région en retour. Grâce donc à, ici c'est vraiment le SDK JavaScript de CRM 2011, hein, xrm.page.getAttribute, mon attribut qui contient le code postal, .getValue pour récupérer la valeur. Donc si j'ai pas de code postal, je mets la valeur de la région à nul. Et sinon, en fait, j'appelle mon service WCF. Donc ici, on voit que le namespace que Christine avait créé, c'était TechDCRM 2011. Donc mon application va avoir cette URL à chaque fois, HTTP. Donc là, je l'ai fait en non sécurisé, mais on pourrait le faire en HTTPS, bien entendu. Donc TechDCRM2011.cloudapp.net. Donc pour tous les projets Azure web qu'on a, qui sont hébergés sur Azure, donc ils sont toujours en .cloudapp.net. Et ici, donc mon service, régionservice.svc. Et je vais l'appeler en utilisant le protocole SOAP, en passant ici le code postal. J'appelle, je prépare ma requête et j'envoie les données de ma requête SOAP. Je récupère le retour. Je vérifie avant si j'ai une chaîne d'erreur ou pas. Si j'ai une chaîne d'erreur, je l'affiche. Et sinon, je vais récupérer la valeur dans la réponse, donc qui est la région sélectionnée. Et puis, je fais l'attribution de la valeur dans mon champ.
Alors là, j'ai créé un nouveau compte, par exemple, depuis donc Dynamics CRM. Et puis là, je voudrais mettre le code postal. Le principe du JavaScript, c'est que dès que je vais cliquer à l'extérieur de mon champ, je vais déclencher l'événement onChange.
Ah oui, alors permission refusée. On a un peu retravaillé toute la sécurité tout à l'heure. C'est les événements...
C'est IE ou c'est IE 9 qui pose problème ou c'est...
Ouais, alors attends, on va juste faire. Je vais vérifier si j'ai la config qui est correcte sur mon poste.
Hop. C'est possible. Peut-être plus logique.
Okay,
ouais, c'est vraiment très.
Alors en fait, simplement, là, pourquoi est-ce qu'on a eu ce problème-là ? C'est simplement que, comme c'est un service que j'ai développé en HTTP et que la CRM est en HTTPS, si on ne configure pas le navigateur correctement, il n'aime pas le changement de sécurité, du coup, il refuse l'appel.
Mais voir 74 000 pour me faire plaisir.
Allez, 74 000. Donc ici, je mets le code postal et juste en dessous, ça va changer la région. Voilà, donc ici, ça passe en Rhône-Alpes. Donc en visuel, c'est pas forcément extravagant.
Mais néanmoins, on va interroger un service WCF qui est posté sur Windows Azure. hébergés et exécutés sur Windows Azure.
Donc pour s'éviter le problème que Christine a eu et qu'on va encore avoir pour la prochaine démonstration, il faudrait donc publier le service en HTTPS, bien entendu, histoire de rester dans le même mode d'accès sécurisé aux pages.
Et là, on a juste le temps de montrer de la page web.
Ah oui, il est déjà aussi tard. Ouais. Alors la page web...
Alors donc... on a fait un deuxième exemple, il a fait une page web qui, de la même manière, exploite cette construction de la région à partir du code postal. Et le principe de CRM, c'est qu'on peut héberger donc dans une iframe, enfin héberger, on peut inscrire pardon dans une iframe un morceau de page donc spécifique dans le formulaire. Donc là, c'est une iframe qui est encore plus spectaculaire que la zone de texte de tout à l'heure. Là, on a une page ASP.NET qui est sur Windows Azure et qui fait donc le même travail que le service WCF. D'ailleurs, voilà, il utilise le service, non?
Elle n'utilise pas le service ici. On voit bien ici que c'est une page qui est bien hébergée donc sur Azure, pour laquelle j'ai passé l'argument, donc postal code 74000. Voilà, si je retourne rapidement sur ma page web qui est ici, voilà, j'ai récupéré le code postal. Et après, j'appelle exactement la même classe que tout à l'heure pour récupérer le code postal et gérer l'affichage de la région. Voilà.
On rebascule sur mon poste.
On bascule.
Voilà, donc en conclusion, on voulait vous montrer que déjà, j'espère que si vous connaissez un petit peu Dynamics CRM, vous aurez envie d'aller voir cette version 2011 qui est vraiment très riche et vraiment très sympa. Et deuxièmement, donc on voulait vous donner un exemple, parce que CRM s'en est un parmi d'autres, d'intégration donc d'une application métier avec Windows Azure.
Voilà, si vous avez un peu plus de questions, on sera aussi sur le stand, au moins pour la prochaine heure, je pense, sur le stand des experts.
Voilà, à la sortie, là,
en face de la sortie,
sur le village partenaire. Merci.